Cantal. J'ai réfuté totalement cette histoire.
Moi, c'est Céline de Combati au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la crise de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. De plus en plus en RDC, on enregistre des initiatives privées relatives à la réfection, la réhabilitation et la construction des infrastructures des bases à travers le pays. Selon certains observateurs, ces demandes, dans la plupart des cas, sont obligatoirement orientées et gérées par le service spécialisé de l'État congolais, d'autant plus que ces travaux ont un coût et exigent le respect des normes. Nous en parlons donc avec comme question principale, quel regard avez-vous sur cette vision politique pour le développement? Rejoignez-nous à l'adresse pa@radiocapi.net et appelez-nous au 081 890 63 15. Willem Lungamba est à la technique, Piro et Lameji à la réalisation. J.R. Lungembo coordonne et présente ce programme sous la supervision de Nicole Ngaka. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Vous aviez peut-être eu l'occasion de souhaiter de bitumer ou bétonner votre rue pour permettre d'avoir un environnement très bien assaini, mais vous avez posé la demande auprès de l'État congolais. Cette demande n'a pas reçu un écho favorable, d'autant plus que l'État exige aux particuliers ou aux initiatives privées d'être orientés vers les services de l'État spécialisés en la matière, d'autant plus que ces travaux ont un coût et exigent le respect des normes. Nous en débattons avec vous, Patrick, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur Charles Duterte et tous les invités qui sont là. C'est à toi que je suis juste à l'ultime, je suis étudiant à la faculté de lettres. J'ai entendu parler de ce sujet-là de la jeunesse de tout le monde.
Voilà, Patrick. Oui, Patrick, en attendant que votre ligne s'arrange, je pense que là, vous êtes collé au téléphone. Nous sentons que ça ne donnera pas. Voilà, donc voilà, Franck, vous êtes avec Vienne. Bonjour, Franck.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aux autres amis avec qui nous allons nous échanger.
Votre point de vue, Franck.
Merci de recueillir la parole. Par rapport au thème du jour, nous savons que la construction des infrastructures de base pour les citoyens est parmi les attributions régaliennes de chaque État qui se fait et qui se veut responsable. Mais il est aussi possible de permettre que les citoyens mettent leur main dans la pâte à base de leur patriotisme pour assurer le nord du développement dans certains pays du pays. Ce qui explique que même chez nous, il y a des individus, certains compatriotes qui se lancent à la construction de ces infrastructures dans certains milieux de vie. Beaucoup l'ont fait et nous savons que beaucoup vont encore le faire. Pour aujourd'hui, mon intervention va porter sur un volet avec quelques questions. Je m'attelle personnellement au projet initié par notre actuel gouvernement pour construire une école à Minané. Le projet en soi est vraiment génial, mais je vous pose la question, si c'est possible de faire suivre nos questions à qui de droit. Mais pourquoi ne fait-on pas aussi partager ou impliquer, collaborer avec certains compatriotes et a déjà fait preuve de loyauté financière pour que la réalisation de tel projet devienne vraiment manifeste sur toute l'étendue du pays? Je vais m'expliciter à ceci. Il y a des compatriotes qui mobilisent leurs amis de l'extérieur pour réunir un peu de moyens pour construire, par exemple, une école, un centre de santé, un centre de développement, ainsi de suite. Mais du moment où nous savons que le gouvernement dispose de fonds alloués pour des fins similaires et qu'on sait que tel monsieur a déjà aidé la population d'un tel coin à base de ses efforts, ne serait-il pas possible qu'on puisse se servir de telles personnes pour construire ces infrastructures de base avec des fonds dont dispose notre gouvernement? Donc, je voulais un peu avoir des réfléchissements sur.
Franck, aujourd'hui, c'est vrai, vous avez dit, disons, les initiatives privées ne peuvent être que la réponse à un élan patriotique, les compatriotes qui veulent accompagner les gouvernements congolais dans la vision, par exemple, de la modernité, en construisant soit des routes ou encore des écoles, bref, d'autres infrastructures des bases. Mais aujourd'hui, la réponse réponse est toujours que c'est là, étant donné que c'est là un coût et qu'il va y respecter les normes de construction, c'est ces travaux, en tout cas, c'est seulement l'État qui a le prérogatif de pouvoir faire ou exécuter ces genres de travaux. Alors, quel commentaire avez-vous par rapport à ça?
Oui, c'est bien, je trouve que le danger, c'est sûr, bien sûr, l'État n'est pas. Notre État n'est pas présent dans tous les milieux de villes. Je peux vous donner le nom de certains villages et la RDC. Tous ces villages appartiennent à notre République, mais je me demande, je me mets moi à la place de ces gens, s'ils savent au moins qu'il y a de telles choses qui se font pour le bien de la population. Donc, je crois que on doit arriver quand même à ne pas seulement voir les centres urbains ou les grandes villes pour parler du développement de la RDC. Donc, le développement de la RDC doit atteindre tous les milieux. Mais la clé, c'est qu'il y a des fonds qu'on donne pour faire développer le pays, mais ces fonds-là ne sont mis à profit que pour certains centres urbains et pour certaines grandes villes. Mais pour aller dans des petits villages là-bas, on a parfois besoin des individus qui ont certains liens avec ces endroits-là. Alors moi, maintenant, j'objecte dans le sens contraire. Ne serait-il pas possible que l'État se serve maintenant de telles personnes pour aussi atteindre ces individus qui sont vraiment oubliés dans certains pays de la République? Sinon, on parlerait du développement, de l'élan du développement, mais qui ne profite qu'à une catégorie de citoyens qui vivent dans des centres urbains ou dans des grandes villes.
Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé. C'est vrai que vous avez reconnu que la réfection, la construction ou encore la réhabilitation des infrastructures des bases à travers le pays, en fait, entre dans le cadre des attributions régaliennes d'un État. Néanmoins, vous encouragez également des initiatives privées et vous demandez à l'État de pouvoir laisser, malgré qu'il y a un coût et aussi que ces travaux exigent notamment de le respect des normes, mais il faudrait que l'État puisse accompagner. Voilà, donc ces initiatives et encourager davantage. Merci beaucoup, hein, Franck, d'avoir appelé de Vienne. Papy, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Gilles. Bonjour à tout le monde.
Donc, vous avez la parole, Papy.
Oui, merci. Comme M. Franck, moi, je vois que ça sera une bonne chose d'encourager l'initiative privée. Parce que l'État, quand on voit toujours ça, cette prérogative régalienne, doit savoir que ce sont les privés à travers le monde qui posent cette salle-là pour un peu améliorer la condition de vie de ces nationaux ou de ces citoyens. Alors, l'encouragement de cette initiative privée encouragera aussi la population au contrôle citoyen et à la participation citoyenne. En plus, cela pourra inculquer aux Congolais plus l'esprit de l'entrepreneuriat que la bureaucratie qui règne dans notre pays. Vraiment, si on ne tient pas compte des initiatives privées, les Congolais seront à ce moment découragés. C'est vrai que dans certains secteurs stratégiques, l'État doit toujours être là, doit toujours.
Oui, Papy, prenons les cas par exemple de.
Il faut toujours encourager la.
Oui, Papy.
Privée qui est toujours très importante pour faire développer les pays.
Oui, prenons les cas par exemple de réhabilitation ou encore de construction des routes ou des infrastructures routières. On sait tout de même que 1 kilomètre, aujourd'hui, on entend parler, le coût avoisine pratiquement 1 million. Alors s'il faut construire 10 kilomètres, vous imaginez que ça pourrait quand même être pas une mince affaire pour les initiatives privées.
C'est ça, c'est ce que j'ai dit, monsieur Gilles, vous avez tellement raison, mais à part les constructions des routes là, surtout les grands artères, nous avons des routes des sortes agricoles au niveau des villages là-bas. Vous savez que la population elle-même qui s'organise pour réhabiliter ou construire les routes des sortes agricoles. Donc cette population doit avoir nécessairement l'appui de l'État congolais.
Voilà, donc vous vous demandez qui est l'appui de l'État congolais quand il s'agit des initiatives privées, parce que ces coûts-là, la population ou encore ne pourra pas, l'initiative privée ne pourra pas faire face à ces coûts de travaux. Voilà, donc vous demandez comme Franck, que malgré que ça rentre dans les attributions régaliennes d'un État, mais qu'on puisse aussi, pour créer cet élan patriotique développement, diversifier et accepter au lieu chaque fois que l'État puisse rejeter la demande des individus ou encore des privés, et ça pourrait aider tant soit peu au développement. On va prendre Étienne qui est à Guémena. Étienne, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les hôtels de la radio Capri.
Étienne, vous avez la parole.
Ok, merci monsieur le journaliste.
Voilà, on a des petits soucis avec la ligne d'Étienne qui nous appelait de Guémena. Nous débattons avec vous autour de initiatives privées relatives à la réfection, la réhabilitation et la construction des infrastructures des bases à travers les pays. Selon certains observateurs, ces demandes, dans la plupart des cas, sont obligatoirement orientées et gérées par les services spécialisés de l'État. Donc, quand vous voulez réfectionner votre environnement ou encore réhabiliter une avenue, tout doit passer par l'État et les initiatives privées sont au fait orientées, contrôlées, coordonnées par l'État congolais. Alors, nous faisons des commentaires par rapport à cette thématique. 081 890 63 15 pour votre intervention en direct.
Le sport sur Radio Okapi est une question de condition physique. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres et débarquer à Mbandaka en canoë-kayak, franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage, style papillon et j'en passe. Okapi Sport. Un ensemble de correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme pour vous apporter l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sport, car la passion du sport est sur Radio Okapi.
Voilà, merci de votre fidélité à Radio Okapi. Nous débattons, les auditeurs sont nombreux qui attendent et nous avons des petits soucis de l'autre côté du réseau, donc il y a une forte perturbation. Vous êtes nombreux à attendre pour intervenir et nous vous rappelons encore nos numéros de contact, le 081 890 63 15 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook ou encore sur nos différents réseaux sociaux. De plus en plus en RDC, on enregistre des initiatives privées relatives à la réfection, la réhabilitation et la construction des infrastructures, des bases à travers le pays. Alors, les constats qui ont été faits, dans la plupart des cas, ces demandes sont obligatoirement orientées et gérées par les services spécialisés de l'État congolais, d'autant plus que, en tout cas selon l'autorité, ces travaux ont un coût et exige le respect des normes. Alors, comment vous commentez cela? Lui, France, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Cher, je vous juste commenter sur la voie. L'État lui-même ne saura pas prendre en charge toutes les initiatives que le peuple doit se retrouver. Juste, les initiatives privées concernent aussi les retrouvailles du peuple. Et ce sont des constats que je suis en train de voir tout à l'heure. Lorsqu'une initiative est privée, l'État en sabote. Il ne se rend pas compte. Or, c'est une grande erreur. L'État doit se rendre toujours compte, il faut encourager les initiatives privées, en fait qu'en association avec les initiatives privées et étatiques, en associant, il y a un retrouvail du peuple.
Oui, mais lui, France, prenons les cas, par exemple, des infrastructures routières. Nous prenons l'exemple, en tout cas, pour Kinshasa d'abord. Il y a cette route de Kimwenza qui exige, au fait, de grands travaux pour sa réhabilitation, parce qu'elle se trouve dans un état de délabrement très avancé. Alors, il y a une initiative privée qui s'est prononcée. L'État demande à ce que tous les fonds soient orientés vers les services spécialisés de l'État pour, au fait, exécuter ces travaux. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, ça, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce qu'il y a tant d'autres initiatives qui, au fait, sont aussi orientées vers les services spécialisés. Alors, comment vous commentez?
D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi, je rends un hommage très mérité à l'initiateur, et c'est l'occasion à l'État d'appuyer à cette initiative. Que l'État renforce les capacités et les moyens, pourquoi pas les soutiens, peut permettre à cette initiative privée soit évolutive. Et de le faire seul, il ne sera pas adéquat, parce que ce sont des histoires qui demandent suffisamment de moyens. Si c'est la question que l'initiative soit privée, et puis l'initiateur en prend en charge soi, il ne le sera pas. En association avec l'État, les fasses, et en ce moment, les choses seront très bien évolutives que les nécessaires. Ce sont des habitudes que notre État adapte. Et en tout petit peu, il doit tout faire pour qu'il fasse des moyens et puis arranger. C'est pas comme ça qu'il doit laisser l'initiative privée de s'en prendre en charge. Cette route de Kimwenza, que l'État appuie cette initiative privée dans l'ensemble, il peut très bien faire la chose.
Oui, mais appuyer, c'est une chose, mais les fonds sont là. c'est une initiative privée, mais l'État demande à ce qu'on puisse orienter ces fonds vers les services spécialisés de l'État qui doivent travailler à la place.
Oui, les initiatives, c'est ce que je pouvais parler au ministère de l'Infrastructure lui-même. Il en est à la base. Il y a certaines institutions aussi qui entourent le ministère de l'Infrastructure qui doivent s'associer. Mais juste, nous sommes pendant la révolution de la modernité. C'est une vision chère au chef de l'État qui a partagé, qui a donné des avis au ministère et toutes les institutions qui doivent s'occuper de l'infrastructure. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne peuvent se borner qu'à la commune de la Gombe, Limété, la route est faite pour être interpellée, on doit les dire. Or, ils ne se rendent pas compte. Ils doivent se rendre compte surtout à des routes qui se dirigent vers des sommets de 500 de Kinshasa. Je vous remercie d'ailleurs de cette initiative de la radio Kapi qui soulève à chaque moment le ministère et pourquoi pas les institutions qui s'en occupent. Mais si ce n'est pas le cas, aujourd'hui nous nous retrouvons. Vous allez, on fait tout. Ça ne vous trouverez rien à arranger. Et si vous doit dire, on est le ministre de l'infrastructure.
Voilà, parce qu'on évoque toujours des problèmes de coûts, nous aurons dans ces studios Charles et Médard Ilunga qui pourraient nous dire comment on peut encourager d'ailleurs les initiatives privées quant à ces travaux, parce que nous savons que le gouvernement a lancé un vaste programme de réhabilitation, modernisation de nos infrastructures, notamment routières, qui aujourd'hui, c'est vrai, ont un coût, mais les initiatives privées, est-ce que peuvent aussi s'ingresser à ce projet? Lui France, merci beaucoup d'avoir appelé de Kinshasa. Théodore, vous êtes à Mbujimayi. Bonjour Théodore. Étienne, vous êtes à Guémena, bonjour.
Et la construction des routes, d'une façon, de la modernité, c'est une bonne chose, sont des initiatives vraiment allouées par le gouvernement. Mais le problème de l'homme, maintenant, cela se cause des problèmes parce que le gouvernement, il a tout un service du ministère qui est chargé de construction, de reconstruction, de consorts. Mais les initiatives privées restent aussi à allouer. Comme ici, chez nous, par exemple, ici, en Guémena. Nous avons les problèmes des ronds-points. Il y a des ronds-points qui ont été détruits pour réhabiliter ces ronds-points-là. Jusqu'à ces jours, cela a été fait, mais ces ronds-points ne sont pas réhabilités. Il y a des routes qui étaient programmées pour refaire, pour réhabiliter. Et ces routes, paraît-il, les billets ont été alloués. Mais jusqu'à ces jours, ces routes restent toujours telles qu'elles étaient. Et nous attendons maintenant, par exemple, au moins dans la saison sèche.
Est-ce que Théodore, il y a des initiatives privées qui se sont prononcées pour aider, accompagner l'État dans cette vision?
Bon, les initiatives privées au début 2006-2007, il y a eu des grands commerçants qui ont donné leurs moyens. Ils ont donné leurs moyens, par exemple, sur la route de l'université de Chinon-Bujimayi.
Est-ce que c'était
un commerçant qui a donné les moyens? Et puis, les routes ont été construites avec les moyens des privés. Et puis, l'État commençait déjà à restituer cet argent. Ce sont des initiatives allouées. Mais ce n'est pas deux ou trois personnes qui peuvent le faire. C'est ce que nous disons. L'État peut aussi faire, mais il doit associer les privés qui peuvent vraiment bien gérer la gestion, donc l'argent. Et qui sont alloués à cette histoire. Voilà un peu ce que je demande, que chaque fois quand l'État veut quelque chose, qu'il essaye d'associer les initiatives privées pour que les choses puissent aller de l'avant.
Merci beaucoup Théodore d'avoir appelé de Mbujimayi. Nous prenons Étienne qui est à Guémena, à l'Équateur. Bonjour Étienne. Voilà, on a toujours des petits soucis avec la ligne d'Étienne. 081-890-63-15 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Votre radio vous propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte de recettes, des femmes et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regard d'avenir et point de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un geste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Merci de votre fidélité à Radio Capi. Nous rentrons dans ce studio avec Charles Médard Ilunga, qui est le DG de la CGT. agence congolaise des grands travaux. Monsieur Charles, bonjour.
Bonjour, Gilles.
Alors, de plus en plus, on enregistre des initiatives privées relatives à la réfection, la réhabilitation et la construction des infrastructures de base à travers le pays. Alors, le constat qui a été fait, à chaque fois que les privés font ces demandes auprès de l'État, ils sont obligés d'orienter leurs demandes vers les services spécialisés de l'État qui, en fait, exécutent ces travaux dans les normes et dans le respect de coûts. Alors, c'est vrai que ces travaux ont un coût. Aujourd'hui, un kilomètre de route, par exemple, parce que c'est le cas de la CGT qui exécute les travaux de route, un kilomètre coûte pratiquement $1 million de dollars. Alors donc, il est difficile à un privé de s'engager dans la réhabilitation et la réfection des routes.
Oui, il est évident que la participation des privés est tout à fait difficile dans les routes, et surtout s'il s'agit des routes assez structurantes. C'est vrai que l'initiative des privés est souvent limitée à des interventions généralement dans les aménagements des espaces, et les plus souvent c'est des espaces sur lesquels ils peuvent trouver un peu des recettes. Il est très difficile parce que la route en elle-même n'est pas toujours économique de manière évidente. Il faut des études généralement pour arriver à donner à la route une rentabilité. Donc il est tout à fait difficile d'imaginer que le privé puisse s'intéresser à certains tronçons, à des tronçons à 1 km, 2 km. Ce que nous savons et ce que nous encourageons aujourd'hui, c'est effectivement des initiatives dans des grands projets structurants. Aujourd'hui, vous savez que c'est un PPPP, un partenariat public-privé, qui s'exécute et s'entretiennent même les travaux sur la route Kinshasa-Matadi, Kinshasa-Lubumbashi-Kasumbalesa, Lubumbashi-Likasi-Kolwezi. Donc ce sont des types de partenariats, des concessions qu'il faut encourager. Et il y a beaucoup de projets comme ça aussi pour lesquels nous sommes en train pratiquement de susciter l'attention des privés. Nous avons l'exemple d'un projet intéressant, Kasomeno-Kasenga, à Tchalué vers la Zambie, un projet de plus de 90 km à gré de fond. Donc là, ce sont les privés qui sont intéressés parce que, en soi, le projet lui-même apporte un bénéfice.
Voilà. Alors, la plus grande question aujourd'hui, est-ce qu'il est interdit à un privé de prendre des initiatives sans l'État? J'ai donc des cas, par exemple, d'un commerçant qui veut aménager son avenue, là où il exerce son commerce.
Non, je crois que c'est comme j'ai dit, il ne s'agit pas de dons, tout doit s'inscrire dans le processus, dans un projet de planification. Vous savez que tout ce qu'il faut déplorer dans la plupart des cas, dans beaucoup de villes, c'est l'absence du respect de plans d'aménagement. Donc aujourd'hui, le souci, c'est d'arriver à engager tout le monde dans ce plan d'aménagement, dans le respect des normes en matière d'occupation. Donc, je pense qu'il est difficile d'imaginer qu'on puisse bloquer une initiative qui s'insère dans cette planification.
Alors, aujourd'hui, c'est vrai, parce que nous parlons du coût, il y a un auditeur qui nous a écrit qui aimerait un peu se faire une idée, parce que c'est vrai, aujourd'hui, vous avez dit, il y a le programme PPP avec le privé. Aujourd'hui, c'est vrai, à un certain moment, on a parlé des Chinois, on a parlé de la BAD, on a parlé d'autres bailleurs de fonds traditionnels. Et c'est vrai que les travaux qui sont faits, en tout cas sur le terrain, ça suscite encore les débats, ça suscite encore des supputations et aussi des spéculations, dans la mesure où on se rend compte que l'argent qui est mis pour ces travaux, en fait, n'est pas utilisé comme il faut. Donc, si vous pouvez peut-être me faire une idée, d'une manière globale, le coût des travaux qui ont été exécutés pendant ces dernières années.
Ok, je crois que la question du coût est une question généralement qui suscite beaucoup de passion, et il est important que de plus en plus nous apportions des arguments techniques. Vous savez, exécuter une route, la route, comme vous savez, a une infrastructure, une superstructure. Donc la route, c'est un ouvrage comme le bâtiment, un ouvrage comme tous les ouvrages. Et que la projeter la construction d'une route passe par plusieurs phases. Alors, je voudrais de manière d'abord un peu plus générale dire que on a plusieurs fois, on a caricaturé cette question du coût en présentant même des coûts standards, $1 million de dollars le kilomètre. Mais nous pensons que la question est beaucoup plus complexe que ça. Pourquoi ? Parce que la construction d'une route, n'est-ce pas, passe par plusieurs chemins. Alors, je crois que nous aurons le temps de vous apporter assez d'informations pour que vous puissiez d'abord comprendre que la route, le prix, la formation du prix de la route part d'abord de la structure même de la route. Ça, c'est une étape et ça aussi, c'est très complexe. Hein, on ne construit pas de la même manière une route sur un terrain, une vase, sur une terre végétale, sur un terrain de boulis, une argile gonflante. On ne construit pas de la même manière, n'est-ce pas, qu'on construirait sur déjà une roche compacte. Donc, les questions, toutes ces questions vont vous apporter un peu plus d'éclairage sur le coût de la route.
Alors, il y a un auditeur qui, avant votre arrivée dans ce studio, il y a un auditeur qui a évoqué les cas de la route, par exemple, qui moins date. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a des privés qui sont prononcés pour sa réhabilitation. Jusque-là, les informations dans sa possession, et selon l'auditeur qui est intervenu, je ne sais pas, peut-être vous avez des informations par rapport à ça, les privés, notamment les religieux qui habitent les environs de la route, alors qui tenaient à ce qu'on puisse réhabiliter cette route, mais ils n'ont pas eu un écho favorable auprès de l'État congolais.
Non, je crois la question est très claire. Aujourd'hui, nous pensons que les projets, on ne les commence pas quand on veut. Les projets sont toujours précédés par une phase. La formulation, c'est une phase au cours de laquelle il faut préciser les aspects techniques d'un projet. Vous voulez qu'un projet soit géré dans un contexte de qualité, dans un contexte d'efficience, d'efficacité, il faut passer par toutes ces phases. Il faut au préalable arriver, n'est-ce pas, à présenter une étude. Déjà, on commence souvent par des études esquisses, mais il faut des études d'avant-projet, même des études approfondies, de manière à cerner la question et à trouver des solutions durables. Vous savez, un privé, généralement, c'est une initiative limitée. C'est limité peut-être juste à un accès, limité peut-être juste à un espace, à quelque chose qui ne peut pas intéresser totalement toute la communauté. La question d'intervention des privés, certes, est sujet à discussion parce que la route coûte ce qu'elle coûte.
La route coûte ce qu'elle coûte, mais généralement, les gens redoutent une chose quand ils, en fait, donnent les moyens, le fonds à l'État. Deux fois, on accuse un retard dans l'exécution des travaux. Et dans bien des cas aussi, les travaux ne sont pas exécutés selon leur entendement.
Non, je ne sais pas qui sont ces donateurs tout à fait désintéressés qui sont prêts à donner autant de fonds comme ça à l'État. Non, moi je crois qu'un tel donateur serait, j'imagine, la bienvenue si déjà au départ lui-même a fait une étude et s'il s'est inséré dans un schéma d'aménagement clair. Je ne vois pas l'État bloquer un tel donateur qui lui comprend très bien comment on peut réaliser un projet.
081-890-6315 pour votre participation en direct.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers ? Un espace vous est réservé. Samedi, dimanche, 9h à 10h, heure de Kinshasa. Radio Capi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiookapi.net et demandez une chanson et nous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Monsieur Boutouli Ikela, vous êtes à Ikela, beaucoup Ikela, donc à l'Équateur. Boutouli, bonjour.
Bonjour, monsieur le JR.
Vous avez la parole, votre point de vue.
Oui, monsieur le JR, je suis content parce que vous m'avez donné cette opportunité. Je suis vraiment tout à fait d'accord avec monsieur qui vient d'intervenir maintenant. Mais moi, je suis sur l'existence de notre gouvernement. L'État doit s'occuper au privé. Vous savez, JR, il y a un problème. Au fin fond de l'intérieur, nous avons les difficultés des routes et des chemins agricoles. L'État n'a jamais été là-bas. Chez nous, par exemple, aujourd'hui, ça fait 14 ans que nous avons jamais été assistés par service de l'État ou par un projet quelconque de l'État. Nous avons mon initiative. Moi, je suis le coordonnateur des TPD. Je suis en train de voir. Je fais chaque mois qui s'envenue, qui est là par mon tour, parce que c'est notre ville touristique. Nous avons 357 km qui nous séparent avec la province orientale. Je fais 140 km de Kisangani, après Rivière Lomé, là. Après Rivière Lomé, j'ai traversé. Je dis 5 km là-bas. J'ai appelé tout le monde là. Je dis cette digue-là de 5 km. Qu'est-ce qu'on peut faire? on m'a proposé, non, voilà, il faut jeter les limonites et puis la route sera bien dégagée. Et moi, j'ai dit, ok, vous dégagez 5 mètres de l'autre côté, 5 mètres de l'autre côté pour qu'ici, il y a la lumière et s'il y a le sommet, par exemple, et ça va sécher tous ces flaques d'eau qui traînent dans la route et puis on va jeter les limonites. Et je vous assure, ce sont des choses praticables et faisables. Il faut qu'on aille de l'histoire pratique dans le terrain. Laissons-nous les histoires des idées, tout ça, aller dans le papier, faire le machin, machin. Que nous allons d'abord sur le terrain.
Donc, j'ai comprenais beaucoup dit, comme l'a dit notre invité, il y a une étude qui doit être faite en amont, avant l'exécution de tous les travaux. Et vous pensez qu'il faut être pratique, et surtout en ce qui concerne les routes de desserte agricole, disons, les étatistes privés peuvent le faire, en tout cas en respectant aussi les normes d'une manière un peu simple.
Bien sûr, parce que moi aujourd'hui j'ai des expériences. Je fais deux ponts chez nous. Moi je suis de Toubenga, je fais un pont, j'ai fermé un pont avec.
Donc il ne vous a pas été interdit. Il ne vous a pas été interdit. Oui, Botouli, il ne vous a pas été interdit par le gouvernement de le faire.
Non. Je suis dans l'ONG, tout pour le développement, TPD, c'est moi le coordonnateur. Je suis en train de voir, il n'y a pas moyen de travailler. Je suis arrivé avec ma juge, il n'y a pas moyen de travailler chez nous. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que j'appelle le gouvernement? Non? J'ai sensibilisé la population, j'ai dit qu'est-ce qu'on peut faire. Vous savez, il n'y a rien de problème chez nous. Il y a un service de cantonnage. Il y a une société d'environnement qui est chez nous et qui est là. Qui fait le cantonnage avec le machin, avec le bête.
Voilà. Donc si je comprends bien, quand il s'agit des petits travaux, l'État ne se mise pas, bon, on laisse librement les ONG prendre le relais, mais quand on parle plutôt des grands travaux, c'est là le problème, M. Charles Médard.
Oui.
Donc il faut faire la différence entre des petits travaux et des grands travaux.
Oui, de manière générale, vous savez, dans tous les pays du monde, ce sont les privés qui apportent les grandes infrastructures dans tous les pays. Mais pour cela, il faut un encadrement sur tous les plans, sur le plan technique. Et comme je l'ai dit, il faut s'insérer dans des schémas assez clairs, des schémas techniques. Alors, je crois que aujourd'hui, la question des ressources est une question fondamentale pour pouvoir permettre à l'État d'intervenir sur un pays aussi vaste. Et puis, il faut relever le fait que la longue période, comme on peut dire, de sous-capitalisation marquée par l'absence d'entretien a fait qu'aujourd'hui, nous avons perdu pas mal des routes qui étaient en bon état il y a cela quelques années. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, il faut conjuguer tous les efforts et en même temps pour entretenir et réhabiliter les chaussées déjà dégradées. Et le niveau de dégradation est très, très avancé. Au point qu'aujourd'hui, le FONER, qui a été mis en place pour pouvoir mobiliser les recettes qui permettent d'intervenir pour faire l'entretien du réseau routier, est toujours débordé. Donc, il faut beaucoup de moyens pour qu'aujourd'hui, l'État, n'est-ce pas, puisse que arriver à réhabiliter les réseaux qu'on connaissait depuis déjà l'indépendance.
Mais depuis que l'État s'est engagé dans cette vision de la modernité, de la modernisation même des infrastructures, d'aucuns pensent déjà que l'État a les moyens de sa politique avec les partenariats qu'il a signés, notamment avec les Chinois, les partenariats qui sont gérés par la CGT. Aujourd'hui, c'est vrai, mais le calcul que font certains observateurs au nombre de kilomètres qui étaient censés soit être construits ou encore réhabilités, on se rend compte que l'argent n'a pas été utilisé comme il faut.
Ok, je crois que petit à
petit, nous avons eu des débats au niveau du Parlement par rapport au taux d'écoute et aussi on a relevé quelques défaillances.
Ok, alors je voudrais vous dire, parce que vous aimez revenir sur l'écoute. Vous savez que la question de l'écoute d'abord, il faut la comprendre, pour pouvoir gérer un projet dans un contexte, comme je l'ai dit, de qualité, il faudrait d'abord bien préciser les différents intervenants et définir clairement leurs responsabilités. Aujourd'hui, vous avez vu qu'à travers plusieurs réformes, il y a des structures qui permettent d'aider l'État. Donc vous avez l'État qui exerce comme maître d'ouvrage, et l'État a des institutions avérées, aguerries, qui ont l'expertise nécessaire pour exercer comme maître d'ouvrage délégué. Et il y a toute la question de la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire l'institution appelée à gérer depuis la conception jusqu'à la phase d'exécution, gérer de manière convenable. Et puis, dans toutes les étapes de gestion d'un projet, il faudrait définir, à toutes les étapes, il faut des moyens de contrôle. Aujourd'hui, je crois que vous avez vu l'État en train de placer des moyens de contrôle qui permettent d'optimiser le coût de projet, les délais d'exécution, chaque fois qu'il y a un projet qui démarre. Je peux vous dire, par exemple, que dans la plupart des projets, les projets que nous avons commencés, quelles que soient les difficultés, nous avons commencé le projet et nous l'avons terminé. Et ce qu'il faut dire, c'est ceci. La question de coût, parfois, c'est, il faut se positionner dans le cycle. C'est toujours comme je l'ai dit. Il y a des projets qui ont eu à démarrer à l'époque, à l'étape d'esquisse. Vous savez qu'à l'étape d'esquisse, on se limite à des estimations sommaires. Et généralement, on y va de cette manière lorsque il y a pression des besoins. Vous savez qu'aujourd'hui, nous roulons sur le boulevard du 30 juin, mais faites un recul. Si jamais on n'avait pas construit ce boulevard du 30 juin, si c'était le boulevard que nous avons connu il y a 6 ans, je crois que ça serait catastrophique, le problème de trafic dans la ville de Kinshasa. Donc nous disons qu'aujourd'hui, il est important que dans l'accompagnement, dans l'exécution de projet, et ça c'est en train d'être fait, qu'on puisse définir des points de contrôle très efficaces, très efficients, des missions de contrôle qui permettent, alors que le projet a été bien conçu, que le projet soit alors suivi dans son exécution. C'est ce qui est en train d'être fait, vous l'avez vu depuis un certain temps. La question du coût, je dois aussi vous dire qu'en 2011, le ministère qui a en charge les ITPR, le ministère des Infrastructures, avait mis en place une commission. Laquelle commission avait conclu à l'élaboration d'un guide des prises unitaires. Et depuis lors, la question du coût est réglée parce que nous avons un guide, n'est-ce pas, qui nous sert à pouvoir trouver un référentiel de prix. Et c'est des prix, je peux vous donner autant de prix, le prix du béton, vous verrez que c'est des prix plus compétitifs qu'ailleurs, quand bien même que nous ne soyons pas producteurs attitrés du bitume, pour le béton bitumineux, producteurs, vous savez, nous avons un déficit en production de ciment, donc nous avons autant de difficultés parce que nous utilisons des produits qui sont importés. Mais nous avons un encadrement, nous avons deux guides. Et aujourd'hui, il nous appartient de mettre tous ces guides en application de manière à donner des coûts. Et nous avons aujourd'hui la capacité de vous donner des coûts de route. Vous savez, je peux vous faire une image. Oui. Imaginez, ça j'ai donc cette image. Si je me limite à vous dire que la route, la Skyway qui part de Washington, qui a 12,5 km, a coûté, j'insiste bien, 12,5 km, a coûté 1,830,000,000 de dollars.
Pas 12 millions.
Je dis bien 1,830,000,000 de dollars. Imaginez que je me limite là en vous disant cette route a coûté 1,83 milliard, eh bien, vous allez tomber à la renverse parce que vous estimez que ça fait presque 160 millions de dollars au kilomètre. Mais si on ne vous dit pas quelle est la consistance de ces 12,5 kilomètres, qu'est-ce qu'il y a comme composante, quels ouvrages il y a, qu'est-ce qu'on peut trouver, eh bien, vous allez vous limiter à dire qu'on construit des routes qui coûtent très cher. Il faut qu'on vous dise. Comment a été le montage financier? C'est une concession de 100 ans. Donc, tout ça sont des questions que généralement.
On va revenir sur ça, et puis le temps de repasser de l'autre côté des standards. Joël, qui est à Kinshasa, Dieudonné à Walikale. Joël, bonjour.
Bonjour, JR, et merci de m'associer à ce débat.
Vous avez la parole. Votre point de vue, Joël.
Oui, j'ai suivi mes prédécesseurs et je voudrais dire ceci. Et encourager ou louer les initiatives privées, c'est bien, mais il y a des domaines où on ne peut pas encourager cela, sinon les privés risqueraient d'agir comme
oui, les donc, oui, donc, déjà, donc vous pensez qu'au niveau des infrastructures routières, c'est un domaine qui, au fait, ça rentre directement dans la position régalienne d'un État. Les privés ne peuvent pas s'ingérer.
Oui, les privés ne peuvent pas s'ingérer à moins qu'ils puissent appuyer l'État. Ou soit voir ça dans un cadre très limité, par exemple réhabiliter ou construire un pont mais pas toute une route. Je voudrais prendre l'exemple, si un privé aujourd'hui prend l'initiative de réhabiliter l'université de Kinshasa et qu'on lui accorde cela, et une telle personne, surtout si c'est un individu, il ne va pas vouloir faire que ses enfants échouent dans cette université parce que c'est lui qui l'a réhabilité. Et je pense que le même problème peut aussi se poser si c'est un privé qui doit construire toute une route. Je pense qu'à cela, en tout cas, c'est un domaine vraiment exclusif à l'État et qu'on ne peut pas encourager l'initiative jugée.
Donc vous partagez l'avis selon lequel il faut donner des moyens à l'État pour que l'État puisse au fait être capable d'exécuter ses travaux sans problème.
Oui, c'est ce que l'État a toujours demandé aux personnes privées qui ont toujours pris les initiatives, surtout sur la construction des routes, mais malheureusement, ces privés ne veulent pas donner l'argent à l'État, soit verser l'argent dans les comptes de l'État, et ont toujours voulu eux-mêmes exercer. Et je pense que la décision de l'État de toujours décourager ce genre d'initiative est louable et que l'État doit continuer.
Voilà, merci beaucoup. C'est votre point de vue, Joël. Nous prenons Dieudonné qui est à Walikale. Bonjour, Dieudonné.
Oui, bonjour, Gérard. Bonjour aux auditeurs de la Radio de la Paix et surtout ceux de Moubi.
Oui, allez-y, vous avez la parole.
Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole, monsieur le journaliste. Bon, moi, je me demande, puisque c'est une émission intéressante, vraiment, je viens de vous prendre en cours de film. Je sais bien que c'est une émission intéressante. Bon, je vais dire ceci. Je ne sais pas s'il faut réhabiliter des routes ou les faire et que cela regarde la population ou ça concerne notre État. Je me pose plus de questions. Parce que quand on parle des routes ici chez nous, vraiment, c'est un problème très sérieux, monsieur le journaliste. Donc, le Walikale, c'est un territoire où je dirais que qui s'est placé au milieu des quatre provinces. Donc, il y a une route vers Bukavu, Walikale, Ombo, Bukavu. Il y a une route Walikale, Kibua, Masisi, jusqu'à Goma. Il y a une route Walikale, Lubutu, Kisangani. Donc, vous verrez que quand on parle de Lubutu, on va directement à la province de Maniema.
Mm-hmm.
Bon, je regretterai toujours, parce que les routes que je viens de vous citer sont totalement défoncées et impraticables. Et il y a même des autorités. Parce que je vais parler
de la
il a dit quand même comment nos routes sont totalement défoncées.
Oui.
Mais je ne sais pas moi, est-ce que c'est nous-mêmes la population que nous sommes en mesure de réhabiliter ces routes ou parfois c'est notre État. C'est ça qui est le problème. Je viens de suivre l'invité qui nous parle de il faut se prendre en charge de tout ça. Je ne suis pas sûr. Je suis d'accord avec l'intervenant qui vient de terminer tout de suite. Pour dire que ça, ce n'est pas notre travail.
C'est le travail de l'État.
Oui, c'est l'État. C'est l'État qui doit vraiment aménager des routes. Et c'est un problème sérieux. Il y a des minéraux, il y a des quoi, il y a tout ça. Mais impraticable. Et comment tout ce que nous en avons ici.
L'État ne peut pas tout faire,
un jour à Lubumbashi. C'est un problème. Et je regrette aussi quand il y a des invités sur vos antennes là-bas. Ils parlent toujours des Maluku, ils parlent toujours de Kingasani, tout ça. Est-ce que Kingasani, c'est le Congo? Je pense que c'est la ville province de Kinshasa, ce n'est pas tout le Congo. Et quand on va parler d'un projet sur le plan national, il faut voir les bâtis du pays. Et notre pays est riche. Vous n'allez pas nous dire que, voilà, je vais donner un exemple de Washington de là-bas. Je pense que Washington est aujourd'hui, même Barack Obama, connaît bien que le Congo, c'est un grand pays et c'est un pays riche. Mais pourquoi ne pas mettre maintenant un budget là, un budget qui va aménager toutes ces routes-là? Il faut les mettre.
Merci beaucoup des données. Alors, M. Charles Lunga, c'est vrai, le moyen, tout le monde a salué le partenariat avec les Chinois. Mais alors aujourd'hui, on a comme l'impression que le résultat n'est pas celui escompté.
Voilà. Moi, je crois que déjà.
Beaucoup d'argent,
non.
On a fait, disons, face à ces coûts, comme vous l'avez dit. Mais les résultats sur le terrain, parce que, à croire le propos, par exemple, de Dieu de Walikale, le Congo, ce n'est pas seulement Kinshasa, c'est à travers le pays.
Je crois qu'il
est-ce
a,
que c'est arrivé voilà. Est-ce que ça atteint vraiment le résultat?
Non, il a parfaitement raison.
Parce que maintenant, on risque d'inciter au privé de faire quelque chose.
Non. Moi, je crois qu'il parle, il dit que moi, j'ai dit qu'il faut se prendre en charge. Je crois qu'il faut, relativiser,
je n'ai pas dit ça.
Alors, aujourd'hui, je suis heureux qu'on continue à parler des espoirs suscités par le programme sino-congolais. Je crois qu'aujourd'hui, je vous invite à aller voir aujourd'hui le développement du projet minier à Kolwezi, parce que vous savez que le projet sino-congolais est surtout soutenu par la mise en œuvre de ce programme minier. Et c'est une fierté de voir ce projet en train d'avancer, parce que il faut effectivement les compatriotes qui parlent des données à Walital et qui disent que notre pays est riche. C'est vrai, notre pays est très riche, mais il faut qu'ils sachent qu'il va falloir qu'on mette le cœur dans l'affaire pour que cette richesse puisse réellement profiter aux routes. C'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Nous crions aux richesses, mais toutes ces richesses n'ont pas toujours servi, n'est-ce pas, au pays. Alors, je crois que le modèle du programme sino-congolais est un modèle qu'il faut encourager. Et j'ai vu beaucoup de gens dire pourquoi ne faut-il pas développer ce même modèle dans toutes les provinces pour que les minéraux qu'on exploite puissent réellement être convertis en infrastructures. C'est un chemin idéal aujourd'hui. Et il est normal que tous les Congolais s'interrogent sur nos potentialités. Il est tout à fait normal, mais nous pensons que le modèle du programme sino-congolais suscite de l'espoir, mais il faut que ce modèle soit généralisé et qu'on puisse copier ce modèle pour le faire et développer à travers le pays.
Pépé est à Kinshasa, Jean-Bruno à Guéména, et ingénieur Christophe à Kinshasa également. Pépé, vous êtes avec nous, bonjour. Pépé, vous êtes avec nous.
Oui, je vous suis.
Voilà, vous avez la parole, votre point de vue.
Bon, le problème, c'est que dans cette affaire, on ne sait pas qui doit appuyer qui. C'est l'État qui doit appuyer les privés, c'est la population qui doit appuyer l'État. Et on se posera la question de savoir où serait l'État. L'État serait la population ou ce serait des gens qui ont le pouvoir et les moyens en leur possession. Je vais aller dans les cas plus concrets. Par exemple, le cas que nous avons évoqué au début par notre auditeur, la route de Kimwenga. Cette situation ne date pas d'aujourd'hui. Il y a les pères jésuites qui ont essayé de négocier pour arranger cette route, qui a longtemps défavorisé cette cité, où on connaît qu'il y a beaucoup de congrégations catholiques, il y a des sœurs qui œuvrent avec une école excellente parmi les écoles. Mais l'État a toujours calé pour que cette église ne cherche pas à réhabiliter cette route. Il va intervenir, nous avons vu des Chinois qui ont traîné au niveau de Mabanga. Ils ont grévé, ils ont jeté des pierres, jusqu'à ce jour, ils ont abandonné. Il y a des canaux qui sont construits au niveau de 7 km, sur la route des Kimwenga. Jusqu'à aujourd'hui, la route n'a jamais été achevée. Alors on se demande pourquoi l'État doit aller, au moment où ces gens-là disposent des moyens pour qu'ils puissent arranger la route. Au lieu de les approcher, de rentrer s'il y a des conditions remplies, mais au contraire, ils demandent à ce que ces gens donnent l'argent à l'État pour que l'État réhabilite la route. Or, l'État, on connaît que ces mains ne sont pas propres. Pourquoi on dit cela? On peut se référer à un ingénieur de cette région à peine d'intervenir. Il y a des initiatives par des locaux qui prennent l'initiative des villageois. L'État est venu avec un projet de route qui lie le Kata oriental de l'Omela et qui est là jusqu'à Opala. Mais où la situation de cette route? Il y a des gens qui se soulèvent là-bas. Jusqu'aujourd'hui, l'État n'a pas donné l'argent. Or, un projet réhabilité avec des ingénieurs, c'est ça. Les ingénieurs, on a construit même des motos, des ingénieurs dernièrement. Pourquoi? Parce que l'État n'arrive même pas à répondre aux engagements qu'il a pris. Alors, l'invité qui est sur place, qui dit non, il faut toujours se référer à l'État, il faut toujours les études de l'État. Même là, on met les études, mais l'État n'arrive même pas à payer l'argent pour les tronçons déjà réalisés. Il y a des entreprises qui ont réalisé des travaux à 80%, et jusqu'à ce jour, l'État n'a jamais payé cet argent. Et on ne sait pas les explications.
Vous avez
la caritas mon congo qui est là. Je ne sais pas quoi expliquer aux entrepreneurs qui l'avaient engagé. Or, ces entrepreneurs-là, la plupart sont des ONG qui ont regroupé des villageois qui ne savent pas quoi faire, qui ne sont qu'à la chasse, à l'agriculture, mais qui ont eu une possibilité d'arranger leur propre route.
Voilà.
L'État n'arrive même pas à combler. Donc, nous comprenons que l'État est en train de chercher à tel que la population peut se mettre debout. Alors là, au moment où la population se met debout, parce que la route est en train de s'abîmer. Si vous voyez, vous suivez d'autres chaînes de proximité, Molière, TV, les gens disent toujours l'État a réussi le Cambodge. Et ce sont les dirigeants qui sont les premiers à se mettre pour dire que non, même devant votre route, dès que vous voyez votre passé, ils sont dit l'État a réussi le Cambodge, il faut maman aller à l'hôtel du Cambodge. Mais quand l'État, les populations se prennent en charge, l'État vient parler pour dire que non, remettez d'abord cet argent à nous, l'État, pour que nous venons à l'île. Or, nous savons comment est-ce que, surtout ici à Kinshasa, comment est-ce que l'argent est géré.
Merci beaucoup, Pépé, d'avoir appelé de Kinshasa. Jean-Bruno, vous êtes à Guéména. Bonjour.
Bonjour, Gilles Redon.
Vous avez la parole,
je suis avec le médecin de je commencerai par dire que je découvre un groupe congolais surtout qui intervient étant à l'OCAPI. Nous sommes des experts en COVID. Nous faisons plus
Voilà, là, on a difficile à comprendre votre intervention, Jardino. On va demander peut-être à la réalisation de nous aider à pouvoir améliorer la qualité de votre communication. Alors, on prend Ingénieur Christophe qui est à Kinshasa. Ingénieur Christophe, bonjour.
Oui, bonjour, Gilles. Bonjour à notre invité. Bonjour à tous les députés de la radio.
Oui, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup. Je voulais tout simplement éclaircir peut-être certaines critiques, nous-mêmes de la population et même au niveau du gouvernement que nous avons dans nos têtes. Quand aujourd'hui on demande, par exemple, au gouvernement de protéger les initiatives privées, c'est-à-dire les entreprises qui s'engagent dans la réhabilitation des routes, je ne crois pas que celui qui a cette initiative-là, qui ne puisse pas voir ça comme quelque chose de l'adopatant. Mais je crois quand même l'État doit protéger, parce qu'à un moment donné, même pour la réhabilitation, par exemple, des routes, l'État doit protéger même les déploiements de ces matériels sur terrain et voir après la réhabilitation ce qui peut se faire. Je crois à ce niveau-là, il n'y a pas question d'exclure l'État. À ce qui concerne même au niveau des fonds alloués, il peut arriver à un moment donné une société qui fait des initiatives avec des privés pour réhabiliter des routes, mais cette société-là ne parvient pas à payer les agents qu'on avait engagés. Maintenant, quand il y a un problème, qui va arbitrer si ce n'est que l'État? Alors, je crois qu'il n'y a pas, il ne faut pas s'inquiéter beaucoup de ces sujets. Mais du côté de l'État, qu'est-ce qu'il faut retenir d'abord? Nous devons, l'État, le gouvernement doit aussi être quand même responsable. Si vous trouvez une société, par exemple le cas des routes qui moins ici, c'est une confession religieuse reconnue, honnête, et qui présente les dossiers. Si c'est vrai que les dossiers répondent à tout ce qu'il y a comme prérogative, ou bien tout ce que l'État a pris comme décision, je crois qu'il n'y a pas moyen de les bloquer, il faut leur laisser le temps et les protéger. Mais je crois, surtout pour nous, pour la population, il y a certaines choses que nous comprenons, et c'est que nous avalons, sans comprendre les fonds même des problèmes. Quand on parle des routes qui moins, quelqu'un peut parler tellement comme ça pour induire la population.
Oui, mais ne connaît pas l'exigence des travaux. Hein.
Oui, je crois qu'il faut toujours mettre l'aspect technique et la réalité au lieu de diviser parfois des informations qui n'a rien à faire avec la technique, parce que la construction d'une route demande beaucoup de choses. Il ne faut pas prendre ça comme si quelqu'un vous demandait, oh, je veux construire une toilette chez vous, allez, venez. Non, l'État doit tout à cadrer, mais avec des lois qui restent quand même respectables à tout le monde.
Ingénieur Christophe, merci beaucoup d'avoir appelé de Kinshasa. Charles Bédard Ilunga, vous êtes le directeur général de la CGT. C'est vrai, d'abord une réaction par rapport à cette série des auditeurs.
Je remercie les compatriotes Christophe. Je crois qu'ils soulèvent des questions tout à fait pertinentes. Vous savez qu'aujourd'hui, l'État a montré qu'il apporte réellement son encadrement et sa protection. Depuis février, si je ne me trompe, 2014, il y a une loi qui protège la signature des conventions. Donc les privés ont la latitude de signer des conventions dans le domaine des infrastructures, dans le domaine divers. Donc vous voyez, l'État apporte son encadrement. Vous savez, aujourd'hui, il y a un projet très intéressant, RR comme on l'appelle, et l'office de route est en charge du dossier. C'est un certain nombre d'ONG, des privés que l'État encadre pour pouvoir apporter leur concours avec la méthode IMO, l'intensité en main d'œuvre. Et là, ça apporte de l'emploi aux populations à travers plusieurs villages. Et je crois que c'est des projets soutenus par l'État. Mais nous devons toujours noter la faiblesse du budget de l'État. Et ça, c'est des questions. Alors, d'où doivent venir? Et ça, c'est la question que tout qu'on doit se poser. Les moyens de l'État doivent provenir d'où? Voilà pourquoi nous disons qu'il faut généraliser le projet qui concourt, n'est-ce pas, à développer de partenariats, à mettre nos ressources naturelles, n'est-ce pas, les mettre en valeur pour construire les infrastructures et dans tous les domaines. Et alors, pour la question de la route Kimweza, je crois que il y a exactement, je crois, un mois et demi où nous avons accompagné son erreur, monsieur le ministre de l'Amérique du Territoire, qui est allé découvrir, et, je crois pour peut-être la deuxième fois dans un intervalle très court, la route Kimwenza.
Parce qu'il y a une dégradation qui perdure.
Hein. Ah oui, mais je dois vous dire qu'il y a eu quand même des travaux qui se sont exécutés, mais pas au point de résoudre définitivement le problème. Alors, moi je crois que le plus important que nous devons savoir, qu'à l'issue de la visite, le ministre a fait une recommandation. Il nous a demandé de proposer une solution technique appropriée, une solution qui coûterait moins cher. Aujourd'hui, non, ça sera demain, nous avons une équipe d'experts qui descend sur le terrain pour faire un travail qui peut peut-être prendre un, deux jours. Et je crois que dans moins d'une semaine, nous allons proposer une solution technique appropriée pour pouvoir tant soit donc en effet que arriver à
la BAD est déjà prête pour la même déjà l'option de pouvoir
disons que la question est connue, la question est maîtrisée et la question est prise en charge, c'est le plus important, et aujourd'hui nous allons proposer une solution technique pour cette question des Kimwenza.
Voilà. Alors, vous avez, avant l'intervention de cette série des auditeurs, vous parlez de on revient encore sur les coûts des travaux, les problèmes de montage financier.
Oui.
C'est vrai que là, ça pose énormément de problèmes, parce que les auditeurs que nous sommes, les publics, n'avons pas une idée claire sur ce qui s'est fait. Raison pour laquelle, même, nous avons suivi l'actualité, les députés, qui ont crié, en fait, qui ont décrié la gestion, ils n'ont pas, en faisant le suivi, ils n'ont pas vu clair dans l'exécution des travaux qui ont été faits par rapport au projet sino-congolais. Alors, nous allons revenir sur ça. Vous allez peut-être nous expliquer un peu, nous faire une idée très claire par rapport à ça. Mais le temps de prendre Massoudi qui est à Kindu et Mathieu à Kananga. Mathieu, bonjour.
Monsieur Gérard, c'est pour ça que Mathieu a passé de Kananga.
Vous avez la parole, Mathieu.
Bon, en ce qui concerne notre thématique de ce jour, d'après mes analyses approfondies étant sociologue, j'ai toujours dit l'eau prend la forme du vote qui la contient, c'est-à-dire quoi? Dans un pays où il y a souvent des tensions politiques, l'insécurité et autres, on ne peut jamais espérer aucune chose de bon pour le développement de ce pays. Et il faut aussi changer la volonté politique à ce sujet. Nous ne pouvons pas aujourd'hui confirmer qu'il y a dans notre pays des bonnes initiatives qui sont prises par les pouvoirs en place pour le développement de notre pays, dans des infrastructures et autres. Nous remarquons en fait
oui, 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 Mathieu,
les plusieurs
fois. Prophète Mathieu, si cela ne va pas vous déranger, nous vous gardons en ligne tout en rappelant à nos auditeurs qu'ils peuvent également nous rejoindre en composant les 081-890 et on se retrouve avec vous juste après les flashs d'information. Nous poursuivons avec parole aux auditeurs. Mathieu, vous êtes à Kananga. Bon, vous êtes en ligne, vous êtes à nouveau.
Oui, je suis voilà. En ligne.
Ok, alors tout à l'heure, vous expliquez par rapport à la thématique votre point de vue.
Bon, à ce qui concerne notre thématique de ce jour, monsieur Gérard, d'après mes analyses, je répète, approfondies, étant sociologue, j'ai toujours dit, l'eau prend la forme du vase qui la contient. C'est-à-dire quoi? Dans un pays où il y a souvent des tensions politiques, des sécurités et autres, on ne peut jamais créer aucune chose de bon pour le développement de ce pays-là. Bébé, comme aussi la volonté politique à ce sujet, nous ne pouvons pas aujourd'hui confirmer qu'il y a dans notre pays de bonnes initiatives qui sont prises par le pouvoir en place pour le développement de notre pays, dans les infrastructures, avec et autres. Puisque nous remarquons avec amertume que plusieurs projets en ce qui concerne les routes et autres restent en suspens jusqu'à ce jour. Ce qu'on a fait aujourd'hui sont dans des développements le plus total.
Oui, Mathieu, est-ce que vous avez quelques cas, comme ça peut nous aider dans les débats?
Oui. Il y a des solutions que je vais y mettre là.
Non, est-ce que vous avez quelques cas de routes qui sont au fait réhabilitées, mais cette réhabilitation n'est pas du tout de qualité. Les travaux, disons, ne sont pas de qualité, hein, ou carrément vous avez constaté quelque part, le travail n'est pas très bien fait. Vous avez quelques cas à signaler?
Moi, j'ai voulu ceci. au lieu de politique de chantage et de mensonge, il faut qu'il travaille, que le pouvoir travaille.
Ben voilà, donc si j'ai compris bien, vous n'avez pas quelque cas
de travailler pour la population, ce n'est pas de travailler seulement
voilà,
pour...
Mathieu, voilà, vous ne répondez pas à ma question. Bon, merci beaucoup, Mathieu. Massoudi, vous êtes à Kindou, bonjour.
Bonjour, M. JR, bonjour aussi à M. l'invité.
Voilà, vous avez la parole, Massoudi.
Moi, de passage, je voulais d'abord parler un peu si ce concerne la mission régalienne de l'État. Il faut parler de ça, M. JR. Quand on nous parle que non, les universités, parmi les missions régaliennes de l'État, c'est comme si nous autres, nous n'avions pas connu les universités. Il y a des missions propres ou certes des missions régaliennes de l'État qui l'étaient après de faire. Ce qui concerne les partenaires, nous pouvons avoir des partenaires s'ils sont vraiment des partenaires là, avec la bonne volonté. Ils sont là pour les associer en fait de réhabiliter nos routes. Je vous cite l'exemple de la route que j'ai parcourue tout à l'heure ici, c'est de Chabunda. Chabunda à Kalima. Il y a l'Union européenne qui a arrangé des routes là, de quitter Lubile, de l'axe Lubile-Mungembe. Ils ont bien arrangé les ponts, mais s'ils comparent l'état que la société chinoise est en train d'exploiter les minerais à partir des matières là-bas, vers la rivière Lulindi. Mais les Chinois passent là-bas, mais dans des conditions inhumaines. Ils vous passent sur des ponts avec leurs tracteurs, mais ils ne se mettent même pas à cause que non, ils peuvent un peu réhabiliter pour l'intérêt de cette communauté-là qui sont bénéficiaires de matières particulières.
Merci beaucoup, Massoudi, Charles Véda. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de préoccupations par rapport à aujourd'hui des projets, par exemple, de réhabilitation, de construction, des infrastructures routières. C'est vrai, il y a beaucoup d'argent, mais finalement, rien n'est fait. Et les entités privées qui se prononcent, ça et là, elles sont parfois pas encouragées. Ça décourage quand même l'élan patriotique dans un pays qui est très engagé dans la démocratie.
Merci JR. Je crois que le prophète Mathieu est sociologue d'études de formation. Apparemment, vous avez senti qu'il ne reconnaît rien du tout pour lui. Rien n'est fait. Mais je crois, s'il est réellement prophète, la première chose, c'est de commencer par reconnaître ce qui est déjà bien fait. Et je crois que c'est ce qui manque à beaucoup de compatriotes. Nous voulons bénir notre pays par, n'est-ce pas, des slogans négatifs. Nous refusons le défaitisme. Notre pays a droit au progrès. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont avancé, beaucoup de choses qui sont en train d'être de se faire, beaucoup de réformes. Et je crois que j'ai parlé du projet de RR qui a pour objectif, n'est-ce pas, de pouvoir rassembler, relier à beaucoup de centres. Et aujourd'hui, il y a des gens qui reconnaissent que l'accès à certaines villes, à certains villages, est possible. Il faut commencer par reconnaître, ne plus que ce qui est déjà fait, ce qui est bien fait. Et qu'on a commencé aussi par dénoncer ce qui n'avait pas été fait dans le temps. Je vous ai parlé d'une longue période de sous-capitalisation. Pendant qu'on avait la Gécamine prospère, la MIBA prospère, mais cette sous-capitalisation a produit des fruits. Aujourd'hui, nous avons un pays à reconstruire. Donc moi, je crois qu'il faut éviter le défaitisme. Je crois que si on donnait au prophète Mathieu, ce pays va carrément le brûler, parce que pour lui, il n'y a rien de bon qui va se faire. Alors, j'ai rejoint rapidement Massoudi à Kindou. Je crois que ce que nous avons dit, nous partageons le même point de vue. Donc la mission régalienne de l'État, c'est clair. L'État aujourd'hui est en train de s'occuper de ses missions, la sécurité, l'État, tout l'encadrement, l'État est en train de s'occuper de ça. Et maintenant, les défis de la reconstruction restent là aussi. Donc, nous disons qu'il faut travailler avec les privés, il faut travailler avec toutes les initiatives. Parce que le budget de l'État aujourd'hui est très, très, très faible. Il faut développer de nouveaux mécanismes pour permettre à ce que la République puisse produire de nouveaux projets. Je crois que c'est ça la volonté aujourd'hui, les efforts des autorités aujourd'hui, c'est ça. C'est chercher à aller de l'avant, hein, les longs moments d'insécurité, et chercher à ce que nous puissions passer de l'insécurité à la sécurité.
Voilà. Alors, on va revenir maintenant sur le montage financier, le coût des travaux, de réhabilitation, de construction d'une route. C'est pas pour faire peur aux initiatives privées, mais question de nous faire une idée. Comme ça, chacun de nous sait à quoi s'en tenir dans les jours qui viennent, si jamais il y a des initiatives privées qui peuvent se prononcer. Et comment ça se passe concrètement?
Okay. Alors, d'abord, il faut qu'on sache qu'il y a des routes
urbaines et des routes rurales, c'est-à-dire les designs d'une route qui traverse un village, qui traverse une entité rurale, et on n'a pas les mêmes exigences que pour une route urbaine qu'on construit dans les grandes villes. Nous avons aujourd'hui beaucoup de villes dans notre pays. Ça, c'est déjà une différence qu'il faut faire. Et puis, la route, c'est quoi? La route a une structure. Cette structure est fixée par la durée de vie, ça veut dire les niveaux du trafic qu'on attend. On attend un trafic pendant autant d'années. Eh bien, on dimensionne, on choisit, on prend les options techniques en fonction du trafic qui va venir. Et c'est un paramètre qui fixe, en fait les options techniques sur le choix. Et la route, c'est aussi le seul support sur lequel vous allez implanter la route. Ce seul support impacte énormément sur le coût de la route. Alors, la route est, a un corps, comme on dit, le corps de chaussée, le corps appelé à tenir la route. Donc, vous avez au-dessus de la route une surface de roulement, que ce soit pour une route en terre ou une route revêtue, il y a toujours une surface de roulement qui, elle, est appelée à recevoir l'agressivité du trafic, à protéger le corps de la route, protéger donc la couche de fondation et la couche de base. Alors, tous ces matériaux, c'est des matériaux qui sont déterminants. Leur choix est déterminant dans la durée de vie et dans le coût lui-même. Je vais vous donner, quelques prix. Aujourd'hui, consultez plusieurs référentiels, vous trouverez que par exemple, les enrobés, et là aussi je vous dis que les enrobés sont de plusieurs types, c'est une infinité d'enrobés. Les enrobés, leur prix, je vais vous le donner en euros, c'est généralement autour, selon la qualité de l'enrobé, autour de 8 euros à 40, 50 euros le mètre carré. Aujourd'hui, nous, en RDC, nos prix, les enrobés, généralement, nous le produisons à 19, à 20, à 24 dollars le mètre carré. Donc, nous choisissons un type, une formulation type qui nous permet réellement de répondre à des questions du coût. Et c'est pour vous dire que nous produisons des infrastructures en fonction.
Mais nous avons des bitumes. À un certain moment, les gens ont dit qu'on pouvait utiliser le bitume sur place ici.
Nous, on ne produit pas de bitume.
Oui. Vous savez que le produit au niveau de Bas-Congo, à un certain moment, on parlait de production au niveau de Bas-Congo.
Oui, je crois que c'est une question fondamentale. Les pays qui ont la chance de faire de la raffinerie et de produire les bitumes comme sous-produit du pétrole ont l'avantage, n'est-ce pas, de développer aussi des infrastructures à des bons coûts. Aujourd'hui, nous importons les bitumes. Et quand nous importons, ils coûtent au-delà de 1000 dollars la tonne.
Oui, donc c'est des rêvés comme ça, 1 km, 1 million de dollars.
Non, ça c'est rêvé. Et puis ça c'est rêvé, et puis c'est engager les gens sur une mauvaise voie. Pourquoi? Parce que, je peux vous dire, pour faire 1 km de route, il y a des terrassements, fonction de la plateforme sur laquelle vous voulez. Généralement, les mouvements de terre, les terres à mobiliser, même prenez les référentiels, vous allez voir que dans beaucoup de pays c'est comme ça, rien que pour construire le mètre de route, on mobilise autour de 30 000 à 80 000 mètres cubes de terre. Ça, c'est des terres qu'on transporte, qu'on mobilise. On les jette, on les met, déjà ça a un coût. Et le coût est presque le même. Nous sommes généralement autour des 7 dollars, 5 dollars. Regardez, vous verrez que même dans d'autres pays, au Canada, on a presque les mêmes coûts pour transporter, pour déplacer des terres.
Donc quand le montage financier n'est pas très bien fait, le résultat ne sera pas celui escompté.
Non, disons que le montage financier, c'est un aspect. Le montage financier a un impact. C'est par exemple lorsqu'on veut financer une route dans le cadre d'une concession. Là, le montage financier, le coût, donc ce montage peut impacter le coût. Pourquoi? Parce que, vous savez, c'est un privé qui vous amène le fonds et il doit récupérer le fonds sur 30 ans, sur 100 ans, sur ainsi de suite. Donc, ça, c'est le montage financier a aussi un impact. Le montage financier a un impact aussi lorsque vous ne disposez pas, par exemple, du financement en commençant un projet. Vous savez qu'un projet, vous le commencez, et lorsque vous avez un financement coup sur coup, je crois que là aussi, vous amortissez correctement.
Voilà, je crois que prochainement, on va revenir sur l'évaluation des travaux réalisés autour des projets sino-congolais. Donc, on va évaluer les coûts et on va donner une idée claire aux auditeurs. Monsieur Charles Médard Ilunga, vous êtes le directeur général de l'ACGT, entendez par là, l'Agence congolaise des grands travaux. Merci d'avoir été de l'autre et à très bientôt.
Eh bien, c'est moi qui vous dis merci.
Allô? Allô? Il ne répond pas?
Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à ce programme qui a été réalisé par Pierrot et la Régie, mis en onde par Willem Lungamba, coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Nicole Daka. On se retrouve demain dans un autre débat citoyen. Préparez-vous, enregistrez-vous déjà pour le débat de demain et bonne suite des programmes sur Okapi. À très bientôt.